cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.
Bienvenue à tous pour cette première écoute consacrée à la 7e symphonie de Beethoven par Karajan, avec une équipe de Classica composée de Bertrand Dermoncourt qui parle actuellement, d'Éric Taver et de Stéphane Frédérich. Donc nous allons entendre 10 versions de cette œuvre. Stéphane, peut-être en préambule, quelques mots sur Beethoven et Karajan. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est peut-être le compositeur qui l'a le plus enregistré ?
C'est certainement le compositeur qui l'a le plus enregistré, celui avec lequel il y avait la plus grande identification, à la fois en termes de son, mais même en termes d'image, puisque une grande partie du public français a découvert les symphonies de Beethoven grâce justement à Karajan. Alors on pourrait évidemment, on ne va pas s'étendre ici sur la présentation de la symphonie.
Non, on vous renvoie, d'ailleurs, je le dis voilà. Tout de suite en préambule, on vous renvoie directement au numéro de décembre de Classica qui résumera un petit peu tout ce que nous allons dire là dans les trois heures qui suivent.
Alors il faut essayer de bien voir que pour un chef d'orchestre, la difficulté consiste à faire un peu la synthèse du Karajan de l'époque médiane, du Beethoven de l'époque médiane plus exactement, c'est-à-dire dans lequel il y a des influences à la fois folkloriques, on va s'en apercevoir d'ailleurs dans l'écoute qui va suivre, notamment de Basse-Autriche mais également d'Europe de l'Est, mais en même temps il y a une structure qui est encore classique, il y a un affranchissement à cette structure classique vers le romantisme, donc il faut arriver à analyser tout cela, à traduire l'apothéose de la danse.
C'est l'expression de Wagner.
Voilà, oui. C'est ce que disait Richard Wagner.
Est-ce que c'est simplement une symphonie purement virtuose, comme vous avez l'air de le laisser entendre, ou est-ce qu'on peut y voir autre chose derrière ? Éric Taver, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que c'est quand même une symphonie très abstraite. Hein. C'est vraiment un grand jeu sur le rythme. Et on le sait bien, chaque petite cellule rythmique est mise en route par Beethoven dès le début de chaque mouvement. Et donc, il y a quelque chose d'assez abstrait. En même temps, dans le contexte historique de Napoléon qui envahissait l'Europe et d'une certaine résistance, je ne sais pas si c'est le bon mot, du monde de l'Europe centrale, justement, et de l'Autriche-Hongrie et de Vienne, il y a un côté pas militaire, mais enfin tout de même, on entend quand même beaucoup ces fanfares et ces rythmes de marche un peu guerriers, même parfois, dans la symphonie. Il y a aussi la déploration de l'Allegretto, donc il y a une grande tristesse qui est exprimée, qui a probablement à voir avec la guerre, peut-être aussi avec la vie sentimentale de Beethoven, dont on sait qu'elle a été à la fois compliquée et mystérieuse. Donc effectivement, mais d'abord et avant tout, je pense que c'est peut-être la symphonie la plus abstraite de Beethoven.
Est-ce que c'est d'une certaine manière pour cela que Karajan l'aurait le plus enregistré ?
C'est possible, parce qu'on va s'en rendre compte en écoutant, mais Karajan, c'est quand même le maître du son et du beau son. Et on peut dire que le phénomène de jeu avec les blocs sonores, on peut imaginer que Karajan va avoir beaucoup d'affinité avec cette façon de percevoir la musique.
C'est sûr. Oui, puis c'est une passion pour lui du son. Il avait la passion du son, la passion aussi de l'image. On le verra d'ailleurs peut-être avec des extraits qui ont été captés d'après des bandes vidéo.
Tout à fait. Alors d'ailleurs, peut-être avant d'écouter les différentes versions, donc 10 versions, en fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on croit connaître de Karajan, puisque ce qu'on connaît généralement, ce sont les 4 intégrales, la première pour Rémi avec le Philharmonia, puis les 3 suivantes de Gramophone
avec Berlin.
Avec Berlin. On entendra quelques lives, des surprises, des bandes pour la vidéo, Unitel et Télémondial, ce qui nous donnera en fait 10 versions, et c'est l'œuvre que Karajan a le plus enregistrée, et nous allons maintenant l'écouter.
Thank you.
Eric Taver.
Bonjour tout le monde. Bah, on ne saurait pas que c'est Karajan, on le devinerait probablement, je pense, parce que je trouve que c'est une version Karajanissimo, extrêmement virtuose à tout point de vue, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de couleurs, beaucoup de moelleux, beaucoup d'ensemble, bref, une espèce de perfection dans la réalisation qui est quand même assez extraordinaire, mais qui est justement probablement un peu artificielle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti ici. Pour revenir un petit peu sur ce que Stéphane disait au départ, il me semble que si on, dans la 7e, beaucoup de gens ont eu du mal à vouloir mettre un sous-titre à cette œuvre, c'est parce qu'elle est finalement assez abstraite et que tout le monde l'a dit, hein, c'est pas une surprise. C'est une symphonie qui est fondée sur le rythme et qui est une espèce de gigantesque étude de rythme. Et là, paradoxalement, j'ai l'impression qu'on entend presque trop de couleurs, on entend presque trop de virtuosité, il y a du vibrato sur la flûte, il y a beaucoup de mise en valeur comme ça d'éléments singuliers. On a l'impression que et les ingénieurs du son et Karajan se sont fait très plaisir. Mais il y a quand même aussi un côté absolument virtuose qui est assez fascinant.
On a l'impression, pour reprendre l'expression d'Arnoncourt, qu'on est plus dans la peinture que dans le discours, là, pour le coup. Stéphane Frédéric.
D'abord, il y a une stéréo qui est très opulente. On reconnaît tout de suite la patte de Karajan, c'est-à-dire il forme une sorte de bloc incroyable, un monobloc dans les basses. Et c'est ce qui tend complètement la rythmique chez lui. Et puis, en même temps, il y a un son qui est considérablement allongé. Et là, dans cette version, il y a peut-être moins que dans d'autres une absence de maîtrise, mais du moins, il laisse couler la ligne, il laisse s'étendre la ligne, avec un début notamment qui est pas très théâtral.
Il y a presque
une certaine hésitation.
Avant
qu'il lance la forme.
Extrêmement contrasté, mais peut-être avec un manque de rigueur par rapport à d'autres versions qu'on
entendra.
Et par ailleurs, moi, ce qui m'a un petit peu gêné dans cette version, je ne vais pas reprendre ce que vous avez déjà dit, mais c'est la prise de son. Moi, je la trouve très cotonneuse, pour le coup, manquante de dynamique, avec du souffle, par ailleurs, c'est un peu surprenant. Voilà, je trouve ça gêne un petit peu. Moi, il me semble que la grosse machine karajanesque se mettra en route un petit peu mieux. Enfin, j'ai une image de cette bête sonore un petit peu plus impressionnante que ça, quand même.
Oui, ça manque de mordant.
C'est confortable. Hein.
Ça manque de mordant, voilà.
Ça manque de mordant.
Hein, c'est un
petit peu trop compliqué. Premier mot que j'ai noté, d'ailleurs. Moelleux et confortable.
Oui, un peu cotonneux, voilà. Donc, on va peut-être écouter la deuxième version.
Thank you.
Eric Taver, est-ce que vous avez reconnu Karajan ce coup-ci ? Parce que tout à l'heure, vous disiez que c'était très Karajan. Mais...
Un peu moins, non, c'est moins évident. C'est assez nettement même moins évident. Encore qu'il y ait des choses qui sont assez typiques, hein, le soigné des accords, le fait que le legato est quand même très largement privilégié un petit peu partout. Il y a quand même des signes assez caractéristiques. Ce n'est pas le Karajan standard, on va dire comme ça. On remarque tout de suite que c'est par exemple beaucoup plus tranché sur les accords initiaux que la première version qu'on écoutait juste avant.
Même assez serré, hein, le son est concentré, disons. Oui.
Même s'il y a toujours des attaques quand même très rondes, mais c'est beaucoup plus vif, beaucoup plus altier en général et aristocratique, c'est ce que je notais en tout cas pour la première partie. En même temps, autant j'ai eu le sentiment dans la première version qu'on a écoutée qu'on était essentiellement dans le mélodique, c'est-à-dire que Karajan mettait l'accent sur le côté mélodique du mouvement, en tout cas de ce début de mouvement, ce qui était un peu un contresens pour moi. Autant là, on est, je trouve, dans le travers inverse, c'est-à-dire qu'on est essentiellement dans le rythmique, hein, et que pour le coup, tout reste absolument statique. Là où c'est extrêmement marquant, c'est dans la transition entre l'introduction lente et puis le vivace rapide après. Il n'y a absolument aucun mystère dans la transition. Hein. Il n'y a absolument pas de rupture non plus. C'est-à-dire que tout ce qui est le travail de Beethoven de tendre un ressort pendant l'introduction lente pour ensuite, chouf, lancer la machine du vivace, c'est complètement raté. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une espèce de volonté d'extrême rigueur rythmique. Et ce n'est pas très intéressant. D'ailleurs, on s'ennuyait tous un petit peu en écoutant, je crois.
Oui, d'ailleurs, paradoxalement, en fait, là... Une assise rythmique est toujours aussi précise. Mais moi, je trouve que le discours n'avance pas. D'accord,
oui,
Stéphane ?
Oui, absolument. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a une très grande théâtralité dans les premiers accords. On se dit, chouette, on va avoir quelque chose de très intéressant.
Et puis ça retombe.
Et en fait, on a une agressivité. Mais par rapport, c'est vrai que par rapport à la première version, là, on a un déplacement complet de la masse sonore, dû probablement en partie à la prise de son, c'est-à-dire qu'on quitte les basses, pour aller véritablement vers les premiers et second violons.
Oui,
là,
les
tout,
médiums,
tout repose enfin, sur cela. Donc ça donne une impression d'agressivité très rapidement et pas vraiment de tension. Donc on s'ennuie. C'est-à-dire
non,
qu'au
c'est
bout d'un moment,
dur, et mou,
c'est
répétitif. Temps, je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez eue. C'est un peu paradoxal.
Mou,
mais
pas spécialement. Ça manque de creuset, mais je pense que c'est la prise de son.
Ça manque de relance, oui. Mais peut-être que le mastering de cette version, a priori ancienne, n'est pas très bon. La prise de son est très mate. Un petit peu agressive.
Il n'y a pas de profondeur du tout.
Non,
du tout.
Il n'y a pas d'espace sonore en fait. Donc pour Karajan, c'est un petit peu rédhibitoire. Alors on va écouter peut-être la troisième version donc. Alors donc cette troisième version, Stéphane Frérich, par rapport à la première, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je dirais qu'elle est l'aboutissement de la première, d'une certaine manière. C'est-à-dire que déjà, ce qui séduit, c'est une prise de son qui a un panache fantastique et qui s'accorde véritablement avec ce que dirige et la manière dont l'orchestre joue. Il y a à la fois de la puissance et de la souplesse. Il y a une volonté vraiment de montrer, d'avoir une vision très large, très allongée. C'est-à-dire que les phrases sont pensées très loin devant. Il y a une projection du son qui est excellente. Alors, est-ce que ce luxe, entre guillemets, va fonctionner en permanence et démontrer que véritablement il y a une dimension autre dans cette version, ça j'en suis pas sûr. On est à mon sens d'abord ébahi par la qualité de la restitution, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à dire et d'autres, une autre approche à avoir dans cette
vous voulez dire qu'on est plus dans l'esthétique que dans l'éthique, par exemple?
Pour moi on est totalement dans l'esthétique, ça c'est clair.
Oui, je ne sais pas si c'est vraiment une question d'esthétique. Je crois qu'il y a une volonté absolue, vous l'avez bien vu Stéphane, d'élan et de contraste. Toutes les phrases sont extrêmement travaillées jusqu'à la fin, à tel point même qu'il y a certaines fins qui sont complètement maniérées et brusques. Quoi. C'est ça qui est un petit peu étrange. Il en fait trop, voilà. C'est tout simplement Karajan qui en fait trop. Il a trop d'intention, il veut trop marquer chaque phrase de son saut. Et alors, au départ, on est tout à fait séduit, surtout après les deux premières versions qu'on avait entendues, qui étaient, il faut quand même bien le dire, un peu décevantes. Hein. On peut aimer évidemment ce côté. Moi, j'ai été frappé par le début. On a un sentiment hein, qu'il y a deux orchestres, comme dans un concerto grosso, hein, le petit orchestre et le gros orchestre. On est absolument dans la danse, pour le coup. Là, on retrouve les mots de Wagner dans la vie, mais c'est une vie qui est fabriquée, qui est artificielle. On sent petit à petit, on s'en rend compte, quoi. J'ai remarqué aussi notamment que juste avant la transition, il y a beaucoup de maniérisme. Il nous dit attention, il va se passer quelque chose. Hein. Attention, il y a de l'événement. Attention, il y a des détails. Et puis dans le Vivace, il y a là aussi encore plus de brusquerie, surtout sur les fins de phrase, je remarque. Hein. Peut-être parce que c'est ce que d'habitude on travaille le moins. Alors lui, il nous dit attention, vous voyez, j'ai bien travaillé mes fins de phrase. Et puis j'ai trouvé aussi les cordes très très lissées dans le Vivace, le côté très soyeux des cordes de Karajan, comme ça, qui peut obtenir, je ne sais pas si c'est Berlin, mais je pense que oui. Finalement, ça désépaissit un petit peu la matière sonore, je trouve. Et ça enlève beaucoup d'impact, pas mal d'impact en tout cas, à l'énergie pourtant qui est déployée.
Il est vrai qu'on est vraiment dans une démonstration d'orchestre pur, là.
C'est une démonstration de chef d'orchestre. C'est une démonstration de chef d'orchestre. Parce que c'est tellement peaufiné dans tous les détails. Et franchement, il en fait trop. C'est typiquement le Karajan m'as-tu vu, je trouve. Là.
D'un autre côté, il y a un plaisir hédoniste quand on écoute une version comme ça, de rentrer dans le son et puis d'en profiter.
On écoute Karajan, là, on se dit qu'est-ce qu'il va encore nous faire, franchement.
Et puis il y a des effets suspense. Moi, je trouve que c'est assez cinématographique finalement comme approche, bien que ce soit pas particulièrement narratif, mais en tout cas, on a des images qui défilent.
Ouais, enfin, si on était méchant, on dirait que c'est plus quand même Tex Avery, Rossellini, quoi.
Oui, mais enfin bon, si on pouvait écouter en concert ce genre de version aujourd'hui, on serait fou de joie.
Oui, et puis par ailleurs, on profite de la prise de son, ouais. C'est charnu, c'est beau. Mais peut-être qu'on aura mieux encore.
On va voir.
Alors maintenant, nous allons écouter donc la quatrième version.
Thank you.
Donc c'était la quatrième version, alors assez différente puisque visiblement nous sommes en concert. Stéphane Frédéric, j'ai l'impression que vous avez été emballé par cette version très différente de ce qu'on a entendu jusqu'à présent.
Mais oui, c'est-à-dire après trois versions qui sont presque le symbole de la perfection, retrouver un peu d'imperfection et cette prise de risque, cette notion d'urgence avec tous les aléas que cela peut comporter en termes peut-être pas de justesse, mais au moins de mise en place, à certains moments, ça a quelque chose de véritablement intéressant, parce qu'on s'aperçoit que l'orchestre et le chef sont véritablement sur le qui-vive en permanence. Et
moi, j'ai trouvé qu'il y avait, à l'écoute de cette version, une forme d'intensité qu'on n'avait pas du tout dans les précédentes, une urgence.
Oui, et puis en même temps, il y a l'exigence de Karajan qui est de trouver toujours ce son fondu, ce legato, où tous les pupitres sont pratiquement au même niveau, hein, soutenus par la basse. Ici, il y a apparemment, puisque c'est un live, donc peut-être une prise radio, il y a véritablement une balance qui est faite différemment, ce qui fait qu'on entend davantage, par exemple, la petite harmonie. Et ça, c'est très important.
Oui, et puis les premiers violons. Hein.
Voilà, absolument, parce qu'il y a tout un chant qui ressort. Oui, il est un bal. Alors, on n'irait pas jusqu'à dire
un peu trop, peut-être, mais bon.
C'est une version baroque. Mais c'est quand même un Beethoven qui moi, me touche davantage que ceux qu'on a entendus, même
alors,
si on peut rester admiratif.
Une autre différence, c'est certainement aussi l'orchestre lui-même. Visiblement, on n'est plus à Berlin, là. On a des couleurs différentes. Éric Taver, vous en avez pensé quoi?
Moi, je suis pas...
Vous n'êtes pas emballé, j'ai l'impression.
Je suis pas vraiment d'accord avec l'enthousiasme de Stéphane. Franchement, ce serait pas Karajan. Je pense qu'on s'intéresserait pas beaucoup à cette version. Hein, ce que Stéphane appelle l'urgence, moi je pense que c'est, on n'est pas loin des petites paniques, en tout cas d'une grande attention à pas faire trop de bêtises, parce qu'il y en a. Hein, il y a des décalages un peu partout, il y a même un gros décalage quand même. Bon, c'est un concert, donc c'est des choses qui arrivent. Il reste que bon, même quand on a Karajan à la tête d'un orchestre, on peut se rendre compte donc qu'un orchestre peut pas être tout à fait au point. Il y a des rattrapages de pulsations en permanence, hein, c'est-à-dire que
ça bouge.
Les accélérations, oui, non, mais le problème, c'est que les accélérations et les ralentissements, ils sont pas liés à des volontés du chef, ils sont liés au fait qu'il y a des pupitres qui sont un peu à la ramasse et que donc il faut bien rattraper tout le monde à un moment sur le premier temps de la barre de mesure. Donc moi, je trouve que c'est vraiment pas extraordinaire. C'est pas un très bon jour ni de l'orchestre ni probablement de Karajan. Le vivace est quand même franchement assez horrible, très bruyant. C'est une espèce de caricature de quelqu'un qui veut faire beaucoup de bruit dans ce mouvement rapide. Je pense que la prise de son aide pas, mais on a manifestement l'impression quand même que le chef, il a laissé le timbalier s'exprimer, quoi. Et en général, c'est pas très bon signe. C'est un peu tape à l'œil, quoi. Ou tape à l'oreille, d'ailleurs, plus exactement. Moi, je pense que ce que je retiens en tout cas de ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de live de Karajan, ça c'est clair. Mais finalement, souvent, on le regrette pas tant que ça, parce qu'il y a une telle volonté chez Karajan de faire quelque chose de parfait en studio, d'avoir cette image sonore, cette plénitude comme ça, qu'au disque, on est vraiment ravi d'avoir justement des enregistrements absolument aboutis. Et puis finalement, quand on l'entend en live, c'est par rapport à cet aboutissement des enregistrements studio, je trouve ça un peu décevant.
Alors, ceci dit, prendre le contre-pied de ce que vous dites, visiblement, comme on l'a dit, on n'est pas avec Berlin. On verra dans les 10 versions qu'on va écouter, il y a un live avec Berlin et de mémoire. Témoignages qu'on peut avoir de ça, les concerts avec Berlin étaient parfois proches de ce qui était en studio avec un.
Je vais faire mon résistant. Mais effectivement,
ça sera peut-être pas la même chose aussi. Et on a peut-être un supplément d'âme ou d'humanité, en tout cas, dans ces concerts-là. Le côté un petit peu froid et aseptisé et trop parfait du studio. Enfin, on verra en tout cas. Mais...
Moi, je ne sais pas, c'est la première version pour laquelle je dresse l'oreille d'un bout à l'autre en me demandant mais qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Quand est-ce qu'ils vont se casser la figure?
Non, parce qu'ils peuvent, à mon avis, non. Ils peuvent,
bah, autant ils je me suis ennuyé dans les deux premières versions, mais là, autant là, j'avais envie d'écouter la suite.
Oui. Alors, c'est véritablement une version à juger sur la longueur, entre guillemets.
Peut-être que l'orchestre sera plus en place au bout de 10 minutes.
Mais c'est possible. Oui.
Alors là, de toute façon, on n'en est pas encore là. On va écouter la cinquième version, premier mouvement. Thank you. là, je crois qu'on va avoir mal à faire mieux avec cette cinquième version. C'est absolument sublime. Moi, j'ai l'impression qu'on a toutes les qualités du mieux de ce qu'on a pu entendre là précédemment dans les quatre précédentes versions, sans aucun des défauts. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Ouais, on a peut-être un autre orchestre aussi.
Visiblement, oui.
Et un orchestre qui répond pas absolument peut-être à la volonté de Karajan, parce que peut-être qu'il impose peut-être plus ses propres couleurs. Il y a donc quelque chose de moins artificiel, de moins dirigé, hein, je crois. Moi, en tout cas, j'ai été frappé tout d'abord par ses couleurs qui sont naturelles. Voilà, hein, on passe un petit peu du Technicolor, puisqu'on parlait de cinéma tout à l'heure, au Technicolor des années 50-60, et on arrive un petit peu à des couleurs beaucoup plus naturelles, et ça fait vraiment plaisir, d'autant qu'il y a toujours l'énergie, le peaufiné, le sens du phrasé des meilleures versions qu'on avait entendues jusqu'à présent.
Ce qui m'a frappé, c'est l'humilité de cette version par rapport à la troisième, par exemple, qui était un peu prétentieuse, il faut bien le dire quand même. D'accord.
Ouais, tout à fait. Moi, le mot qui m'est revenu le plus souvent, c'est celui de naturel, même s'il y a quand même une espèce de puissance et d'énergie qui font que ça se fait pas tout seul, ce genre d'interprétation. Mais je l'ai senti, ce côté naturel, dans les couleurs, je le disais, mais aussi dans le balancement, surtout dans l'introduction. On a enfin du balancement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les appuis se font plus sur une mesure ou à l'intérieur des mesures, mais sur plusieurs mesures, quoi. Ça tourne, ça danse, mais ça danse vraiment, là.
C'est ce qui fait simplement que ça se déroule beaucoup mieux.
Voilà, absolument.
Et on ne se lasse pas.
Ouais. Et alors, on a un vivace, Stéphane va peut-être vouloir dire quelque chose, mais le vivace, il arrive avec, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi j'ai trouvé avec beaucoup de fraîcheur. Alors dans les versions d'avant, on avait l'impression, bon bah ça y est, on en est au vivace, hop, on passe à la suite.
Là, il y a une forme de crescendo qui est beaucoup mieux menée, et puis par ailleurs l'équilibre sonore au moment du déferlement me paraît beaucoup plus naturel et juste. D'ailleurs, c'est la première version où on entend les cuivres.
Oui, mais seule petite réserve quand même, j'ai tout de même l'impression que justement il y a un petit peu d'aide des potentiomètres sur les petits corps qui arrivent comme ça. Là,
on n'a pas parlé de la prise de son encore, mais on peut dire qu'elle est vraiment exceptionnelle. Bien
c'est surtout ça, peut-être.
Oui. Hein, Stéphane, qu'est-ce
que vous en pensez ? Je ne suis pas certain, parce qu'il faut vraiment avoir un sacré génie de la part d'un preneur de son pour que d'une part on puisse dire que la prise de son est un peu artificielle et d'autre part que l'interprétation est naturelle. Donc il y a c'est vrai qu'il y a une matière sonore, il y a un grain sonore
qui
est très décalé des grandes années.
Alors ça, c'est toujours le problème des écoutes en aveugle. Oui.
Et ce qui provoque en fait quelque chose de très paradoxal, c'est d'avoir à la fois la massivité d'un orchestre d'une puissance incroyable et en même temps une finesse vraiment géniale.
Dans l'archer des contrebasses, voilà. Par exemple, ça fait plaisir. Mais on a presque l'impression que c'est un montage.
Mais en même temps, il y a de la profondeur. C'est-à-dire que les corps, par exemple, ont un panache extraordinaire. Ils sont complètement à la fois fondus dans l'orchestre et en même temps, on les entend, ils avancent comme ça par des vagues successives.
On n'a pas parlé non plus de la qualité, à propos de vagues, de la qualité de chant qui va jusqu'au bout de la phrase des violons. C'est absolument merveilleux.
Oui. Et encore une fois, simplement, quoi, sans qu'il y ait les espèces de coups d'accélération, ou plutôt de mini crescendo qu'il pouvait y avoir dans la version 3, d'ailleurs.
Et c'est certainement de toutes les versions qu'on a entendues jusqu'à présent, celle qui est la plus proche, pour les bois, de la pastorale. Là, vraiment, on est complètement dans le champ de la pastorale.
C'est peut-être tout simplement la plus beethovenienne, hein, je crois que c'est
oui,
ça.
Oui,
bon, tout à fait. Alors, on est prêt à écouter la sixième, du coup. J'ai l'impression que le fauve s'est réveillé, enfin des bonnes versions, Eric Taver.
Oui, bah, la première chose qui frappe, c'est évidemment le tempo de l'introduction qui est beaucoup plus rapide que dans les versions précédentes. C'est toujours un peu surprenant de voir qu'un même chef, même si on a plusieurs décennies d'écoute, comme vous le disiez l'un et l'autre au début de ce cast, que c'est toujours impressionnant de voir qu'un même chef peut varier comme ça de tempo. Mais en même temps, moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment ici que bah, c'était le bon tempo, c'était le vrai tempo de Karajan, finalement. Mmh. On se dit, mais oui, c'est ça son tempo, c'est ça qu'il doit faire.
Exactement.
Et on a un peu le sentiment que le tempo plus lent qu'il pouvait prendre dans les autres versions, c'est un tempo un peu plus posé, ou je sais pas, ou un peu plus académique, ou on sait pas ce qu'il essaye de respecter.
Alors du coup, le tempo plus lent exacerbait la rondeur et puis le côté un peu artificiel, alors que là, on a l'impression d'être toujours dans le mouvement. Et du coup, on pense plus à l'hédonisme, enfin tous les défauts un petit peu qu'on avait vus au départ.
Et la puissance et l'énergie arrivent tout seul, quoi. C'est-à-dire que ça sort, ça jaillit. Voilà, il y a un côté.
Il y a un jaillissement, ça c'est très beethovenien, pardon. Et puis il y a une sorte de véhémence. On a l'impression qu'il est plus dans le discours là pour le coup. Ah, Stéphane.
Oui, bah c'est vraiment véritablement une interprétation de romantique exaltée. C'est-à-dire qu'on retrouve cette pulsation. Mmh. Si, parce qu'il y a une prise de risque qui est absolument extraordinaire. Et là, il va au maximum, même presque à la limite des premiers violons, qui peuvent avoir des couleurs peut-être pas très belles. C'est beaucoup moins peaufiné au niveau de certaines couleurs, notamment que la précédente version qu'on a entendue. Mais il y a quelque chose...
Ah, mais difficile quand même.
Ah, non.
Parce que c'est quand même sérieusement...
C'est deux conceptions, pour prendre un peu une image automobile. C'est deux conceptions. La précédente, pour moi, c'était davantage une Rolls. Et celle-ci, on entend davantage une Ferrari. C'est-à-dire qu'on a deux qualités exceptionnelles, mais on n'a pas du tout le même message. Et c'est ça, que soulevait Eric Taver à l'instant, c'est que précisément, on peut avoir avec un même chef et avec des outils peut-être différents, on peut avoir des conceptions radicalement différentes.
On est peut-être à plusieurs décennies d'écart. On ne sait pas ce qu'on écoute, mais d'une manière générale, on sait qu'Arian, dans Beethoven en tout cas, sur ses deux dernières intégrales, était plus vif et plus rapide, donc en 77 et en 83, qu'il l'était avant.
Peut-être parce qu'il avait, je ne sais pas...
on a parlé même à l'époque d'un retour à Toscanini.
Oui, c'est un vrai changement, bien sûr. Oui, c'est un vrai changement de conception.
Ce qui est rarissime, d'ailleurs, de la part d'un chef. La plupart des chefs la grande majorité des chefs ont dit que les tempos diminuent au fur et à mesure
dans
avec l'âge. C'est faux dans le cas de Karajan. Mmh.
Moi, autre chose qui m'a frappé, d'ailleurs, rapidement, c'est dans le Vivace, pour la première fois, moi, j'ai entendu un côté presque populaire dans le Vivace, un côté un peu kermesse flamande. Stéphane parlait dans l'introduction de sons venant de l'Europe centrale. Il y a aussi les origines flamandes de Beethoven. Hein. C'est Van Beethoven, n'oublions pas. Et je crois qu'on l'entend très fort là. Il y a un côté un peu kermesse, un peu flonflon, qui est évidemment absolument transcendé et par Beethoven, mais aussi par Karajan là. Mais il y a quand même une espèce de laisser-aller de l'énergie.
Il y a un côté heureux.
Voilà, oui, oui, absolument.
Il y a de la joie,
ouais.
Et en même temps, il y a une espèce de grandeur et de véhémence qui fait plaisir à entendre.
Absolument.
Voilà. Eh bien, on est tellement content qu'on va pouvoir écouter la septième. Donc tout à l'heure, on parlait de la sixième, et là, c'est la septième version. Oui, alors là, on s'est permis de chanter donc cette septième version un petit peu plus rapidement que les autres, puisqu'on...
On s'ennuie tous.
Voilà. Pour parler poliment. Moi, j'ai tout simplement l'impression, pour résumer ce qu'on a entendu, qu'on entend pratiquement la même chose que dans la sixième, sauf que c'est mécanique et artificiel. Et bâclé, un petit
bon
peu
résumé,
bâclé, avec une, merci, avec une prise de son médiocre, par ailleurs, enfin,
oui.
Qui est très compressée. Et...
voilà quoi.
C'est-à-dire pas de dynamique, pas beaucoup de dynamique, pas de profondeur. Donc on a un très bel orchestre, mais finalement on s'ennuie parce qu'il ne se passe pas grand-chose.
Ah, puis les phrasés sont mécaniques.
Tout est mécanique. Les notes répétées, ouais. Qu'il y a énormément hein, dans l'introduction, elles sont parfaitement égales tout le temps. Enfin, c'est absolument invraisemblable.
On a presque l'impression d'un collage.
Oui, c'est ça, exactement. Oui. Alors donc il y a un effet locomotive permanent, tchouk 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 dans l'introduction lente. Et puis le début du vivace là, qu'on a coupé juste après, il y avait un côté gnangnan dans la flûte avec du vibrato de mauvais goût.
Donc c'est certainement un enregistrement de la même période que la 6, mais qui a été certainement bâclé.
Comme quoi, tout n'est pas qu'une question de tempo. Quoi.
Non, c'est juste. Donc ça relativise et puis ça renforce un petit peu tout ce qu'on a pu dire sur la 6e qui était vraiment exceptionnelle. La 6e version, pas la pastorale. Hein. Donc on va peut-être enchaîner directement avec donc la version numéro 8.
Thank you.
Bon, ça fait plaisir, encore une très très belle version. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux deux grandes versions qu'on a écoutées, c'est-à-dire la 5 et la 6,
ah bah
cette 8e version ?
C'est une version survitaminée, qui est à mon sens assez proche de la 6e version, sans toutefois avoir le fini et la qualité des couleurs instrumentales, mais il y a une tension permanente, il y a une prise de risque beaucoup plus grande, il y a une lutte où ils s'amusent véritablement à montrer les contrastes entre les différents pupitres, presque à organiser une sorte de combat sur un ring entre les uns et les autres, et c'est vraiment absolument
magnifique.
On est
peut-être en concert.
Oui, je crois que c'est la première chose à dire, c'est qu'on a tous entendu tout de même que c'était une prise de concert.
Voilà, bien qu'elle soit excellente. Voilà. Et que par ailleurs, il n'y ait pas de prise de concert officielle de Carayanne, donc on ne sait pas trop ce qu'on écoute, mais enfin, on est quand même très content de l'entendre. Éric Taver, comment vous qualifieriez la version ?
C'est vraiment une version de concert, je pense. C'est-à-dire qu'il y a toutes les prises de risque, il y a l'envie de montrer qu'on est le meilleur orchestre du monde, il y a l'envie de montrer que c'est en même temps, c'est extrêmement travaillé. Et en même temps, on sent aussi une habitude de jouer ensemble qui est extraordinaire, quoi, pour un concert.
Ce qui m'a frappé, c'est la cohérence du son.
Voilà. C'est à l'instinct.
C'est absolument.
On joue à l'instinct.
C'est au travail énormément derrière.
C'est très, très, très travaillé.
Dans l'introduction, par exemple, le moment où le hautbois est en solo au tout début, on a vraiment l'impression qu'il est sur une espèce de coussin d'air comme ça. Ça veut dire j'ai une habitude de travail.
Non, mais ne serait-ce que le premier accord, c'est totalement sidérant pour un concert.
Ouais, et puis il y a une projection du son qui est vraiment fantastique.
C'est ça, par rapport aux enregistrements studio, il y a une espèce de côté athlétique là-dedans, hein, de nervosité générale, mais nervosité au bon sens.
Il y a un côté performance,
du terme. Ouais,
sportif.
Exactement. Ouais, voilà. Et puis aussi les violons qui jouent souvent dans les positions assez hautes sur le manche. Et c'est vraiment de la prise de risque, et pourtant on n'entend pas un décalage, on n'entend rien, c'est
oui,
impeccable.
Et du coup on n'a pas les défauts pupitres de cordes qu'on avait signalés dans la version 3,
ouais.
Puisqu'on est certainement toujours avec Berlin.
Donc si on compare à 10, je pense que c'est plus un concert quand même pour amateurs et pour fans de Karajan, parce que, et peut-être aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir l'entendre en public. Tout de même ça reste quand même un tout petit peu voilà, c'est ce que je disais, une version pour fans, c'est-à-dire une version pour écouter quelque chose d'un petit peu particulier. Il y a aussi des petits décalages, etc., mais enfin bon, on n'en voudra à personne. Il me semblait en tout cas que dans la 6 par exemple, il y avait un côté plus intransigeant, plus austère aussi, qui collait mieux à ce que moi je perçois comme étant
dans la
musique
7e,
de Beethoven.
Oui, tout à fait, hein. En tout cas, on était ravis d'entendre donc ce concert, et on va passer à la version numéro 9. Donc c'était la 9e version. Moi, je la rapprocherais de la 3e. Donc version ultra Karajan, beaucoup de legato, un tempo assez proche, mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans un aboutissement supérieur.
Notamment la prise de son, pour commencer, évidemment, qui est extrêmement fouillée, extrêmement creusée. Il y a une espèce d'étagement de tous les différents pupilles, de tous les différents plans sonores. C'est vraiment un vrai plaisir à écouter, quoi, il faut quand même le dire. En même temps, il va plus loin encore, je pense, dans le contrôle des sonorités, dans le contrôle des mixages, des dosages, et puis aussi dans la puissance. C'est absolument phénoménal. Il y a évidemment un côté un peu tout est under control qui est un peu fatigante, mais en même temps, on est un peu époustouflé. Il y a un côté un peu, j'ai noté au début, un côté un peu synthétiseur aussi, tellement tout est fabriqué. Tout.
Moi, j'ai l'impression que c'est la grande version haute fidélité voilà. Qu'on pouvait l'attendre dans les années 70. Quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est la version des années 70.
Ah, peut-être un peu plus tard quand même. Non, la prise de son est tellement fouillée, j'ai l'impression que c'est du numérique.
C'est numérique, oui.
Ouais, je pense, oui. Mais bon, on va sûrement se tromper. Il y a juste un petit peu de cotonneux au début du Vivace qui est vraiment dommage. C'est la flûte, encore une fois d'ailleurs. Je trouve qu'il n'est pas très fort avec cette flûte qui lance le Vivace en général dans toutes les versions.
Fait trop, c'est vraiment, sauf la version identifiée comme la cinquième, peut-être avec l'orchestre de Vienne.
Moi j'ai surtout l'impression que sur les chefs de pupitre, il ne les laisse pas tellement respirer. Il faut vraiment qu'ils soient complètement intégrés. Alors évidemment, un orchestre de cette qualité, il faut toujours que le son soit intégré, que tous les pupitres soient intégrés. Mais à ce point-là, ne pas laisser respirer ces musiciens, c'est assez étonnant.
Oui, et puis là, la prise de son étouffe un petit peu. Moi, j'ai noté pendant l'écoute qu'on passait du coton au velours. Là, c'est trop beau, en fait.
Pour moi, c'est la version airbag absolue. Quoi. C'est une limousine de luxe.
On l'a pas dit encore.
Avec des coussins... Oui, enfin, c'est une machine de guerre incroyable. C'est-à-dire que, et paradoxalement, d'ailleurs,
c'est plus un tank, alors.
Oui, mais ça peut être luxueux aussi à l'intérieur. Il faut quand même avoir le soin des troupes, comme on dit. Mais si on va bientôt arriver à la fin de cette écoute, du premier mouvement, et on a presque l'impression que ce type de version, qui est certainement parmi les dernières enregistrées, c'est certainement celle qui vieillit le plus facilement. Et donc des versions peut-être antérieures qui ont ce côté beethovenien, comme on l'a dit, c'est-à-dire ce dynamisme, cette profondeur, eh bien, entre guillemets, vieillissent moins, sont moins typées Karajan. Et donc
En fait, là, on a identifié des versions karajanesques, mais ce n'est peut-être pas les dernières.
On peut se tromper.
Non, mais
ce
que je veux dire, c'est qu'il y a un style qui est tellement identifiable qu'il vieillit davantage que ce qu'on a écouté précédemment.
Oui, mais ce qu'on a dit aussi, c'est qu'à la fin de sa vie, il avait changé. Peut-être que dans les versions qu'on a adorées.
Non, mais même là-dessus, je ne suis pas d'accord, Stéphane. Je pense que c'est une version, par exemple, que je réécouterais avec plaisir, celle-là, tellement elle est aboutie, justement. Si on veut étudier l'art de Karajan, ou l'art des disques de Karajan, plus exactement, je pense que c'est peut-être la version à écouter, quoi. Mais si on veut écouter la 7e de Beethoven, il y en a peut-être une autre ailleurs.
Non, puis on verra, parce qu'une version aussi legato et aussi fermée d'une certaine manière, je ne sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner dans le deuxième mouvement, mais moi j'ai peur qu'on soit vraiment là dans l'étouffement et dans la simple ligne.
Ouais.
Et j'ai un petit peu peur qu'on ne décolle pas du tout et qu'il n'y ait aucune émotion surtout. Alors on va peut-être quand même écouter la 10e version.
Thank you.
est très intéressant. Donc on a reconnu que c'était la première version, donc sans doute celle de 41 avec l'orchestre de l'Opéra de Berlin. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est déjà du Karajan ?
Pas vraiment. Pas vraiment, il y a un mélange d'abord de tranchant, de profondeur, un souci de clarté, de lisibilité, de tenue. Mais ça, je crois qu'Éric, on en a parlé un petit peu durant l'écoute. Mais en même temps, le fait de vouloir à la même époque s'imposer sur la scène internationale et de vouloir peut-être copier, entre guillemets, le modèle Fort Wengler, même si les deux hommes se détestaient
Toscanini, parce que là, on est vraiment entre les deux, moi, je trouve.
Ouais, mais il y a surtout ce qui est vraiment étonnant, c'est ce souci de lisibilité de chaque cellule rythmique, quitte à vraiment à brider et à fermer complètement. Et puis surtout, là, on peut vraiment rendre un hommage appuyé aux ingénieurs de la Deutsche Grammophon ou peut-être de Telefunken qui ont réussi un véritable prodige en enregistrant cette version, peut-être d'ailleurs sur bande magnétique, parce qu'à l'époque, c'était
ce qui avait été choisi. La pire des versions, alors que c'est la plus ancienne.
C'est vraiment, c'est
par
vraiment
rapport
super.
À la version numéro 2, par exemple, ouais. qui est 15 ans postérieure, sans doute. Éric Tavert ?
Oui, moi je suis quand même très frappé de comme ça ressemble à Fort Wengler quand on a un petit peu à l'oreille ce que Fort Wengler pouvait faire à l'époque. Ça ressemble surtout dans les couleurs, dans les intentions. Dans les couleurs, c'est extrêmement frappant quand même. Hein. Il y a des espèces de mezzo-forte dans les altos par moment qui sont un peu devant. Et c'est exactement les mêmes couleurs que ce qu'arrivait à obtenir Fort Wengler. Il y a aussi des espèces d'attentes comme ça, notamment dans la fameuse transition aussi.
Des effets métaphysiques.
Je sais pas, mais de transparence en tout cas, de transparence et de velouté du son, mais de clarté du son qu'il peut y avoir parfois et qui est assez typique, je trouve, de ce que pouvait faire Fort Wengler qu'on retrouve ici. Alors, est-ce que c'est les orchestres ? C'est un langage commun aux orchestres allemands ou germaniques, on va dire, de l'époque ? Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, moi, ça me frappe vraiment. Sauf que. Oui, il y a probablement cette idée, mais enfin, c'est presque un lieu commun sur Karajan de dire Fort Wengler et Toscanini.
Oui, mais c'est la première fois qu'on l'entend vraiment. Là,
oui, mais en même temps, je trouve que le côté toscaninien, c'est-à-dire le côté rigueur rythmique qu'il peut y avoir, et même métronomique, elle est pour le coup un peu scolaire et un peu raide ici. C'est-à-dire qu'il ne transpose pas la rigueur de Toscanini, elle se transforme en énergie hein, chez Toscanini. Là, elle se transforme
oui,
pas en énergie.
Oui, et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a dans la sixième version qu'on a. J'avais beaucoup aimé tout à l'heure.
Thank you.
Donc on vient d'entendre la première version, deuxième mouvement. Éric Taver, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même très très bizarre. Hein.
Oui, c'est très bizarre. C'est un peu une caricature, je pense, encore une fois d'ailleurs, pour cette première version de Karajan lui-même, une auto-caricature. Tout est absolument dans le legato. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui l'intéresse.
On a l'impression qu'il n'y a qu'un instrument.
Ouais, ouais. Ouais, tout est dans la ligne. Tout est dans la ligne mélodique. Mais alors en plus, la ligne mélodique est extrêmement creusée, c'est-à-dire qu'elle fait des vagues en permanence. Moi personnellement, j'ai carrément eu un peu le mal de mer. Non, mais c'est vrai. Il y a une. Et puis surtout, ce qui fonctionne pas du tout pour ce mouvement-là, en tout cas, c'est la confusion des plans sonores, c'est-à-dire que l'effet de tuilage voulu par Beethoven, hein, c'est évident, petit à petit, l'accumulation des différents pupitres avec les contrechamps, etc., on ne l'a pas du tout.
Non.
Donc ça devient du Wagner au lieu d'être du Beethoven, enfin, je ne sais pas si c'est la
très
bonne
juste, oui,
remarque, mais il y a quelque chose comme ça.
Oui, du coup, il n'y a aucune implication émotionnelle.
Oui, c'est une ligne continue, une sorte de glissade, absolument immense glissade vers un crescendo, mais il n'y a rien qui ressort. À la limite, on est complètement étouffé, il n'y a pas de respiration.
Comme dans le premier mouvement, d'ailleurs, dans cette version. Hein,
on est complètement à bout de souffle, et puis ce qui est caractéristique, c'est qu'en même temps, on ne peut pas chanter derrière, on ne peut pas siffler le thème, parce qu'on est à bout de souffle au bout d'un moment.
On n'y arrive plus. Quand on est en concert de siffler.
Non, mais je veux dire, c'est un thème qui est tellement prenant, c'est quelque chose qui est tellement beau, on l'a toujours en tête, quoi. Une fois qu'on l'a entendu, et là, on n'y arrive pas.
Bon, alors on n'aime pas du tout, et du coup on va passer à la deuxième version. Donc c'était la deuxième version. Assez différente en fait. Hein, là, on est dans un univers totalement... Enfin, déjà c'est plus convaincant évidemment, beaucoup plus intéressant. Moi j'ai noté toujours cette prise de son assez atroce et agressive, mate, pénible à entendre, mais par contre là, musicalement j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que le premier mouvement, cette deuxième version.
Oui mais c'est aussi une prise de son qui permet de mieux entrer dans l'orchestre quand même, hein. On entend
les
attaques.
Ah oui, c'est plus analytique, beaucoup plus analytique c'est sûr, mais elle est dure, elle est quand même très dure.
Bah, il y a une question de goût après, de choix personnel. Est-ce que le tempo est trop lent? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est trop rapide, etc. Personnellement, je trouve qu'il est un peu lent. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus intéressant...
Ce qui compte de savoir aussi, c'est savoir si le résultat est cohérent ou pas. Là, il l'est.
C'est relativement cohérent, oui. Pas tout simplement parce que d'abord, il contraste. Il isole presque les cellules et les parties d'orchestre. Ça, c'est très intéressant. Et c'est totalement contraire à ce qu'on a entendu dans la version précédente. Il y a vraiment le souci d'habiter et de l'œuvre et en même temps de rendre le chant, la valeur au chant.
Oui, c'est beaucoup plus dynamique aussi. On est plus dans le legato et dans le son, on est dans la dynamique et puis le crescendo est bien conduit, quoi. Il y a pas de...
Oui, bien, absolument. Eric, oui, justement, la prise de son, peut-être, en tout cas, moi, m'a semblé intéressante, surtout au début, hein, parce qu'on a un vrai mezzo voce avec une voix. Un peu rauque sur les attaques, comme ça on a vraiment le sens de la cellule rythmique.
On a l'impression qu'on est un peu à bout de souffle et c'est bien.
Voilà, qu'on n'avait pas du tout dans la version 1. Il n'y a pas de crescendo ni d'accélération au début, comme demandé par Beethoven. Donc on a vraiment un monde un peu implacable comme ça qui s'installe, ça c'est vraiment formidable. Et puis après, quand les cordes montent en tuilage, comme je disais tout à l'heure, il y a tout de même beaucoup de tenue, on n'a pas le côté facile et facilement effusif de la première version. Là, je disais pour le premier mouvement qu'il y avait un côté un peu altier, aristocratique. Je trouve qu'on le retrouve un peu ici aussi.
Oui, oui. Elle est surprenante, finalement, cette version. Alors, on va peut-être passer à l'écoute de la troisième qui nous avait déçus tout à l'heure. Troisième version. Alors là, on retrouve un petit peu les défauts, je dirais, de la première qu'on a entendue tout à l'heure. Moins grave, sans doute. Mais tout de même, ce legato permanent, là, moi, ça me gêne. C'est quand même...
C'est quand même très difficile. C'est surtout une masse complètement statique qui se déplace. C'est à la limite du maniérisme. Il y a un maniérisme absolument incroyable, notamment dans les attaques des graphes pour marquer le tempo. Là, c'est du Beethoven qui est revisité par Brahms. Enfin, il y a quelque chose.
Par Strauss.
Par Strauss aussi. Oui, il y a une lourdeur qui est vraiment.
On a évolué. C'était Wagner tout à l'heure.
Impossible. On est vraiment là dans le post-romantisme. C'est un exercice de style. Alors évidemment, le rendu
est très beau. Hein.
Il y a quand même une magnifique plastique, quoi. C'est impressionnant.
C'est absolument sublime. Et puis la verticalité de l'orchestre est absolument sidérante. Quand on écoute chaque note l'une après l'autre, c'est
dommage que ce soit effectivement gâché par des petits trucs.
En fait, c'est de la musique qui devient totalement harmonique, comme Strauss d'ailleurs. C'est juste comme comparaison, mais c'est vraiment pas du Beethoven.
Quoi. Oui, et puis c'est très gênant. Ça part toujours des graves et hop, ça aboutit aux aigus comme ça. Oui. On est vraiment effectivement.
Et puis on est dans une telle jouissance sonore que. Je sais pas, c'est vraiment décalé par rapport au message qu'on est censé recevoir. Alors, est-ce que ça va être mieux dans la quatrième? On ne sait pas, on va écouter. Aussi vite, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux?
Oui, c'est ennuyeux, c'est poussif, c'est lourd.
Laborieux, didactique, chaque phrase est énoncée avec des sabots, enfin c'est...
Concert raté.
Avec en plus une prise de son qui est quand même assez acide, donc les cordes deviennent tout de suite agressives, c'est vraiment
LED,
pas... C'est pas beau, quoi.
Allez, on passe.
Alors on va passer tout de suite à la 5, parce qu'il faut pas rester sur une impression comme ça. là, j'ai envie de dire enfin, on est vraiment dans le mouvement, bien que ça reste très Karajan, hein, c'est-à-dire avec beaucoup de legato, un tempo assez vif. Mais les différences notables par rapport aux autres versions qu'on a entendues précédemment, c'est qu'on entend tout, et puis on a un type d'orchestre qui est totalement différent, avec des cordes absolument sublimes. Stéphane, ça vous fait rire, les cordes, non ?
Non, pas seulement, non, non, c'est surtout le grain de l'orchestre que je trouve absolument délicieux. D'abord parce que c'est un orchestre véritablement typé, on est complètement dans une tradition. Et il y a une sorte de lutte presque entre à la fois ce que le chef veut imposer, la manière dont il veut faire chanter, et en même temps les couleurs, cette espèce de liberté qu'il y a dans les pupitres, où les pupitres veulent de toute façon s'imposer et montrer qu'ils sont présents.
On l'entend bien dans la construction du morceau, oui. C'est-à-dire que ça commence comme pratiquement un quatuor à cordes, enfin on est vraiment dans un ton de confidence.
Et puis l'homogénéité du quatuor à cordes.
Qui est absolument vraiment sublime, là pour le coup, c'est vraiment extraordinaire. Et peu à peu, la tension monte et à la fin on arrive à du Karajan, mais c'est... Eric, non, vous êtes pas d'accord ?
Oui, tout à fait, absolument d'accord. C'est le début, quatuor à cordes aussi, je l'avais noté. J'ai noté que c'était dense et aéré à la fois. C'est un peu miraculeux de ce point de vue-là.
Et là, on a vraiment les contre-champs qu'on regrettait de ne pas avoir dans la première version. On n'est plus du tout dans l'étouffement. Là, on est libéré quand même.
On a souvent rapproché cette septième du monde grec, mais un peu rêvé, le monde grec du romantisme allemand. Et donc là, on serait un peu avec le chœur des pleureuses, évidemment. Mmh. Mais les pleureuses sont drôlement belles. Hein. Mmh. elles le font savoir.
Elles se regardent un peu pleurer.
Voilà.
Mais contrairement aux autres versions, là, moi, je trouve qu'on, déjà, on est capté par l'écoute, et puis on est la beauté du chant des cordes fait qu'on est tout de même ému par rapport à.
Il y a juste une chose
prêter à Karajan.
Il y a juste une chose que j'ai notée, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il n'allait pas au bout du crescendo. Alors il faudrait peut-être écouter jusqu'au bout.
Évidemment, c'est le défaut de l'écoute comme ça.
Est-ce que la deuxième fois, il le fait plus jusqu'au bout? Mais là, on a eu l'impression qu'il s'était tellement justement dans le soin du son, de la mélodie.
Il y a un petit peu de retenue peut-être. Voilà. Aussi, hein. Oui.
Et puis ils sont partis tellement pianissimo de toute façon que ils ont voulu rester dans cette teinte, dans cette couleur.
Mais c'est vraiment très très beau. Pour peu qu'on adhère à l'esthétique de Karajan.
Oui, parce que c'est quand même un petit peu sophistiqué aussi. Le début, la pulsation rythmique avec un décrescendo à la fin, c'est pas écrit par Beethoven et c'est quand même particulièrement sophistiqué.
On est dans les faits. Sixième version.
Thank you.
Alors là, on est un peu dans un autre monde. Stéphane Friedrich, ça a l'air de vous plaire.
Ah, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il y a quelque chose qui est assez étonnant. Il y a un sentiment à la fois d'urgence et de sensualité. Il y a un seul instrument, un seul pupitre de corde. Il y a un côté très altier. Il y a une sorte de douceur, de rapidité. C'est vraiment tout à fait étonnant pour moi. J'ai l'impression d'avoir le déplacement d'une masse aquatique fantastique. Mais il y a vraiment ce côté, ce timbre et cette couleur qui, moi, me plaisent énormément.
Je suis moins enthousiaste. J'ai l'impression plutôt d'un tapis roulant.
Oui, moi aussi, c'est le mot qui m'est venu.
Bien qu'au fil de l'écoute, je trouve qu'on rentre un petit peu mieux dans l'écoute. Mais enfin, c'est quand même vraiment étrange, non ?
Oui, c'est très étrange. On retrouve le côté uniquement mélodique de 1 et 3, mais avec un tempo beaucoup plus rapide, ce qui fait qu'on entend encore moins de choses. Moi, j'ai trouvé que, pour le coup, l'homogénéité n'était pas vraiment assumée jusqu'au bout, parce que sur l'arrivée des trompettes, c'est extrêmement bruyant, c'est tapageur, c'est limite vulgaire, franchement.
C'est très démonstratif.
Ah non. Moi, je ne trouve pas ça du tout démonstratif. Au contraire, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de chair, beaucoup de densité expressive, mais que, justement, le fait d'avoir un tempo relativement rapide évite certains défauts, certains maniérismes. Justement, parce que ça gomme cela et ça avance dans un mouvement général qui me semble.
D'une certaine manière, moi, je trouve déjà qu'il n'y a aucune émotion. Enfin, on n'est pas du tout capté.
Ah oui.
Non, on n'est que dans la démonstration musicale. Là, vraiment, je trouve que c'est la caricature.
Oui, non, mais comme le disait Stéphane, c'était un bon mot, la masse aquatique qui avance, mais c'est pas extrêmement passionnant.
On est un peu noyé dans l'aquarium, oui. C'est...
Ah oui, bah écoutez.
On ne sera pas d'accord, mais bon.
Oui, non, ça doit être mon côté poisson rouge. Mais je non, je suis pas d'accord. Je trouve ça, moi, ça m'a beaucoup. Enfin, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup plu.
Bon, alors écoutons la 7e. J'ai décidé de couper parce que j'ai l'impression qu'on est à nouveau dans la caricature. Là. C'est tellement Karajan.
Alors pour moi, c'est vraiment pour moi la caricature. Autant on n'était pas d'accord sur la précédente version parce que je trouvais que. En fait, il y a très peu de choses qui séparent cette version au niveau de la conception et même de la réalisation de celle-ci.
Il y a le tempo tout de même.
Mais il y a le tempo, oui, mais c'est quand même pas l'essentiel. Il n'y a véritablement aucune carrure rythmique dans cette version. Il y a un relâchement, c'est mou. Alors là, c'est...
Ça s'arrête vraiment, carrément
c'est
par
moment. C'est une production
un
de son.
Un contrebasse, boum, et puis après, ça s'arrête. Ça pourrait s'arrêter là, pratiquement.
C'est une production de son. On a l'impression que tout l'orchestre va s'arrêter pour dire qu'est-ce que c'est beau, ce qu'on fait.
Un petit morceau d'aquarelle. Hein. On est dans la peinture, mais vraiment...
Je crois que c'est routinier aussi. Ouais. Je pense qu'ils ne sont pas du tout...
C'est très ennuyeux. C'est vraiment très ennuyeux. On est tous d'accord, donc passons à la numéro 8. Thank you. une fois encore, on est très proche des autres conceptions qu'on a entendues précédemment. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de pathos, de poids, d'implication. C'est cette version apparemment en concert, enfin, même bien que là, ce ne soit pas encore une fois évident. Donc moi, ça m'a beaucoup plus plu que la version précédente, par exemple, qui est très proche.
Oui, il y a une émotion à fleur de peau, beaucoup plus authentique, beaucoup moins fabriquée que ce qu'on a pu entendre avant. Il y a aussi plus de précision, je dirais presque. En tout cas, plus de lignes. Les lignes sont mieux dessinées, c'est extrêmement cohérent, bien galbé. Voilà. Oui. Alors, il y a ce phénomène assez amusant qu'il accélère, mais tout doucement, tout en finesse, c'est très bien fait. Ça fonctionne extrêmement bien. Alors, évidemment, dans un enregistrement comme ça, où on prend le temps d'écouter et de réécouter, on s'en rend compte, ça fait un petit peu truc, mais tout de même, c'est un beau truc, quoi. C'est de la belle prestidigitation.
Stéphane ?
Oui, bah, j'ai un peu le même sentiment que la précédente. C'est-à-dire que dans la mesure où je m'ennuie quand même nettement moins. Pour moi, je suis toujours devant, dans la contemplation d'une statue. Quoi. Voilà,
c'est la conception de Carrière.
On a une statue qui nous tourne.
Il a quand même une conception de ce mouvement qui est très particulière. D'ailleurs, si on écoutait, comme on le fait habituellement à Classica, toutes les différentes versions avec différents chefs, on s'apercevrait, et d'ailleurs on l'a fait il y a quelques années, c'est pour ça que je me permets d'en parler, la conception de Karajan est totalement à part. Aucun autre chef se permet de débuter le mouvement avec un tel legato et de conduire avec un crescendo aussi artificiel comme ça, ce mouvement.
Oui, mais avec des différences quand même notables, parce qu'on le voit bien, il y a quand même des écarts, de notation et de réalisation qui sont quand même fantastiques. Et il faut parfois très peu de choses.
Il y a des versions à part, mais globalement, là, on en est déjà à la 8e version. On en arrive à répéter pratiquement les mêmes adjectifs à chaque version.
Oui, sauf peut-être sur deux versions, mais en effet...
Oui, mais qui sont à part et qui, d'ailleurs, d'un point de vue historique, enfin, si on les a reconnus, peut-être, on s'apercevra qu'elles sont à part dans la discographie.
Oui, en effet.
Alors, écoutons la 9e. Qu'on est face à un paradoxe, c'est-à-dire que c'est certainement la version la plus Karajan, mais peut-être la meilleure. Est-ce que, en tout cas, la plus convaincante et la plus impressionnante, est-ce que vous êtes d'accord?
Oui.
Oui, oui, absolument, absolument.
Bon, alors on va passer à la suivante. Ah, moi, je voulais ajouter quelque chose.
Non, non, il y a une prise de son qui est extraordinaire. Moi, personnellement, je suis... Bon, on admire, quoi, voilà, on applaudit, mais moi, je suis pas ému un seul instant.
C'est, ah, a... quand même, moi, là, j'avoue que j'étais totalement pris, oui. Du début à la fin. Autant je regrettais, on l'a assez dit pour ouais. Répéter encore une fois, ce legato permanent, cette avancée, ce discours fondu, était parfois ennuyeux, ou en tout cas, on le rejetait en bloc. Là, moi, j'avoue que j'étais totalement pris. Là. Je trouve que c'est une version qui justifie la vision de Karajan. Enfin,
moi aussi,
cette conception,
absolument.
Étouffante, mais tellement belle, là, sur ce coup-là. Et. Alors, on a écouté certainement, là on a la 9e version, on a dû écouter 5 ou 6 fois l'Orchestre Philharmonique de Berlin. J'ai l'impression que c'est la première fois où on a vraiment les qualités de l'orchestre mises à jour. Et
bah, une telle prise de son aussi. Bah oui, mais une telle prise de son, elle joue. Elle
mais
joue
pas seulement, je pense que le tempo, là on a vraiment la justesse du tempo. Dans la 6e, je trouve qu'on était trop rapide, ça devenait démonstratif. Là, c'est un tempo qui laisse l'être des émotions, et du coup, la conduite du crescendo à la Karajan. Fonctionne parfaitement.
Oui, mais là, justement, je crois qu'il faut dire quelque chose sur ce crescendo. Bon, je disais en micro, mais je vais le dire en micro un peu pour rire, que c'était à Karajan ce que le gaffophone est à Gaston Lagaffe, c'est-à-dire une espèce de karajanophone. On a vraiment un orchestre d'une puissance, d'une largeur absolument extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, je pense que c'est sur le crescendo. Contrairement aux autres fois où le crescendo est construit de façon séquentielle, c'est-à-dire que chaque phrase ou chaque séquence, en tout cas, a son propre palier, là, on a une sorte de grand crescendo continu et on a vraiment l'impression que dès le départ, il vise le point d'aboutissement, le crescendo avec climax avec les trompettes.
Oui, c'est juste.
Et pour une fois, on n'a pas le sentiment que les trompettes et les timbales arrivent en disant attention, voilà les trompettes et les timbales. On a l'impression que ça a une logique et que ça arrive tout
on
doucement.
On est vraiment pris dans le voilà. Grand mouvement pour le
oui.
Coup.
Donc
bah,
il a une vision à plus longue vue, me semble-t-il, ici que dans les autres versions.
Oui, oui. Puis il nous dit quelque chose. C'est la première fois qu'il.
Oui, bah moi je suis pas du tout sensible à ce type d'expression. Moi, je pense davantage que le crescendo, il doit y avoir la notion d'effort, la notion de dureté, de véritablement, oui, c'est ça.
Mais
cet effort profondément humain.
Si on cherche ça,
non, mais il y a des versions qui, il y a des versions, non, non, mais il y a des versions comme la 5 et la 6 que l'on a entendu, qui à mon sens montrent davantage ce côté humain, ce côté moins préparé, cette absence relative de perfection.
Mais là, moi,
que l'on a là,
je la trouve fascinante. Moi. C'est d'une telle tenue tout de même. Enfin, c'est. Imaginons entendre ça en concert, enfin, c'est
proprement impossible.
Impossible.
Mais si on a eu la 8,
on est trop en studio.
Loin,
ouais, oui. Non, non, ce qu'on ne sait pas, c'est surtout le nombre de montages qu'il y a dû y avoir.
Bon, ça, on n'entend rien, de toute façon, une fois encore, ce qu'on juge, c'est le résultat, donc on ne peut pas, on n'a pas besoin d'imaginer
absolument.
Ça, ce qui compte, c'est le résultat.
Cette affaire du goût, tout à fait.
Alors là, on va passer d'un monde sonore un petit peu différent, hein. C'est la 10e. progression de ce deuxième mouvement. On retrouve un peu ce qu'on avait dit pour le premier mouvement, c'est-à-dire une espèce de mélange entre le tempo de Furtwängler et la rigueur toscaninienne.
Oui, mais là, on est un peu plus chez Toscanini, je trouve. Il y a une sorte de pathos italien qui est assez étonnant. Il y a quelque chose de presque lyrique, opératique, m'a semblé. Et puis, il y a cette tenue du souffle aussi, qui n'est pas du tout carianesque, qui est très toscaninienne, justement, le fait de faire en sorte que la ligne mélodique se tienne tout le temps. Et dans l'arrivée avec les trompettes, c'était extrêmement sensible au niveau des premiers violons, en tout cas.
Oui, c'est intéressant. Ouais.
Il appuie sur le chant en permanence. Il y a un côté grandiose sans grandiloquence. C'est vraiment très beau, c'est très bien fait. Toujours avec, en plus avec une prise de son vraiment qui est excellente pour l'époque. Non, c'est très bien.
Oui, puis on peut en tirer comme conclusion ce qui est généralement dit, mais qui est vrai, là, on s'en rend compte, c'est que le style de Karajan s'est vraiment forgé après la guerre. Et pas avant, alors qu'il avait quand même déjà 15 ans de carrière derrière lui. Donc on va abandonner peut-être ce deuxième mouvement, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose en forme de conclusion. En fait, on n'est pas tellement plus avancé qu'après l'écoute du premier mouvement, si ce n'est qu'on est d'accord pour dire que deux versions se détacheraient, la cinquième et peut-être la neuvième.
Et la huitième aussi.
Sauf pour Stéphane Friedrich.
Moi, je garde quand même un petit faible pour la sixième.
Oui. Mais bon. On n'est pas d'accord, mais peut-être que les deux mouvements...
Voyons la suite des événements.
Rythmiques vont...
Oui, parce que quand même, pour moi, en tout cas, la remarque à faire sur ce deuxième mouvement, c'est qu'on est un peu moins emballé que sur le premier, globalement. Et il y a comme une petite... Il y a moins l'aboutissement de quelque chose, je trouve. Il y a toujours quelques réserves. On fait toujours quelques réserves sur ce deuxième mouvement par Karajan.
D'une manière générale, on a souvent des réserves dans les versions de Karajan sur les mouvements émotionnels ou...
Les mouvements lents.
Ou personnels, mais les mouvements lents en général.
Ouais.
Et je peux imaginer que dans l'aspect ultra-motorique des...
Du scherzo et du final, ça va être
autre
chose.
On va retrouver du très 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 grand Karajan, on l'espère en tout cas.
Cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand d'Hermoncourt.